Philippe, métaphysique à Fribourg, le 14 décembre 82, deuxième cours.
Précédent. Faudrait peut-être enlever la valise s'il y a quelqu'un là en plus. Il y a une valise qui est au plus en place. Ah bon, oh, 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 c'est une valise absente. J'avais pas compris de sa valise. Ah. C'est rien, c'est la chaise pour l'assistance. Quels sont les critères de distinction entre une philosophie non réaliste et une idéologie sans crise? Voulez-vous expliquer quel sens l'idée d'infini en est un? Alors, les critères, le critère de distinction, c'est tout simplement le fait que dans une philosophie réaliste, on considère que le jugement d'existence est pour nous le jugement fondamental par lequel l'intelligence découvre une réalité extrinsèque. Seule une philosophie qui respecte le jugement d'existence et qui considère que le jugement d'existence est réalisable existe, et que mon intelligence est capable de discerner une réalité qui existe autre que moi, autre que mon intelligence, quoi. C'est pas autre que moi. Parce que le jugement d'existence vous portez sur moi, j'existe. Du moins jusqu'à maintenant. J'existe. Et je pense que j'existe. Et je fais la distinction entre ma pensée et mon existence. Heureusement, parce que quand je m'endors, si vous ne faisiez pas la distinction entre votre pensée et votre existence, vous ne vous endormiriez jamais. Vous voyez ? Et quand vous ne vous endormez pas, ça prouve qu'il y a encore un petit peu d'idéologie en vous. C'est ça, c'est la vieille idéologie qui ne veut pas mourir. Alors vous avez beaucoup de peine d'accepter de disparaître. Je comprends, il y a quoi. Tandis que si vous acceptez qu'il y a une distinction entre votre pensée et votre réalité, vous acceptez de cesser de penser et vous continuez d'être. Et à ce moment-là, même vous êtes euphorique. Et quand vous pensez, il y a un petit drame qui se passe toujours en vous, disons. Il y a une dualité. Alors, au fond, c'est le jugement d'existence. Le seul critère, c'est le jugement d'existence. Tandis que dans une philosophie, une idéologie, c'est le primat de l'idée. Donc, ce qui est premier, c'est le cogito, ce qui est premier, c'est intelligo. Ce que Occam dit magnifiquement, ce que Descartes dit autrement, d'une façon moins magnifique, parce que c'est second, il répète, et donc c'est moins beau, mais c'est quand même le cogito. Dire que toute la philosophie commence par le cogito, c'est dire qu'elle commence par une idée. Ça ne peut pas être autrement. Et si on précise, une idée, il naît. Et si on veut aller jusqu'au bout, la relation est première. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est... Il y a toujours, pour nous c'est toujours très difficile de voir le point de départ d'une philosophie. C'est toujours très difficile, parce que le point de départ est toujours un peu enfoui. Mais si je veux, au point de vue critique, voir la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie, une idéologie, c'est le jugement d'existence. Il n'y en a pas d'autre. Chercher, c'est le jugement d'existence. Et alors, au fond, le jugement d'existence, c'est-à-dire l'acceptation de ma condition humaine d'être intelligent. Ma condition humaine d'être intelligente, c'est d'être une intelligence qui mendie son bien à travers la sensation. Qui mendie son bien en acceptant d'être unie à un corps. Parce qu'au fond, l'idéologie, c'est le refus de l'esprit lié à l'unité. Fondamentalement, c'est ça. C'est pour ça qu'on pourra considérer que Platon est, d'une certaine manière, le point de départ, vous voyez. Je dirais que c'est très différent, ne faisons pas. Mais il y a quelque chose de juste. C'est que si je refuse cette condition humaine, que mon intelligence est liée au corps,
liés au sensible, liés aux sensations, vous voyez, j'essaie de trouver un point de départ qui est complètement en dehors. Alors vous avez quelques grandes positions très nettes, hein. La position de Platon, la position de Plotin qui maintient les deux, la position du néoplatonisme plotinien qui maintient les deux, et le platonisme alors beaucoup plus idéologique des théologiens, Henri de Gand. Henri de Gand, à ce point de vue-là, est très intéressant à étudier. Et il est très remis en valeur aujourd'hui, et il est très intéressant, parce que c'est quand même un grand bonhomme. Et Henri de Gand, c'est nettement un néoplatonicien, c'est un abyssinien. Qui met, au fond, les intentionnels entre les lieux. Alors, c'est intéressant d'essayer de trouver, au point de vue de l'histoire, c'est ça qu'on devrait faire, au point de vue de l'histoire de la pensée, au point de vue de l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de la pensée, c'est de considérer que pratiquement, c'est tout le temps l'un ou l'autre. Et c'est l'effort de faire les deux. C'était ce qu'avaient demandé les étudiants au père Dubarle, à Paris, à l'Institut catholique, sa dernière année. Est-ce que vous ne pourriez pas faire la synthèse entre la philosophie dite aristotélicienne et la philosophie dite cartésienne? Faire la synthèse, c'est de arriver à une philosophie qui soit au-delà des deux. C'est un tout petit peu, je crois, le désir de certains quand ils disent que l'essai de saint Thomas est au-dessus de l'être d'Aristote et qui rejoint par là l'essai platonicien. C'est d'essayer de comprendre une synthèse entre le réalisme et l'idéalisme. Entre l'idéalisme, entre le réalisme et les idéologies. Alors à ce moment-là, on ne voit pas quel est le premier. Dire que le jugement d'existence est premier, ce n'est pas du tout refuser l'expérience interne. Mais c'est dire que l'expérience interne, elle n'est pas première. La première chose qu'on fait, hein, génétiquement, c'est prouvé, ça psychologiquement, c'est prouvé. C'est toujours très gênant, vous voyez, d'avoir une position philosophique qui n'accepte pas des choses que nous constatons aujourd'hui. La première chose que l'enfant découvre, c'est les réalités qui sont extérieures à lui. C'est pas du tout la première chose d'un enfant, c'est de dire « Ah, j'ai le bas de l'âme ». C'est pas la première chose, c'est pas ça. C'est le premier gémissement de l'enfant, ce n'est pas de dire ça, mais c'est de constater qu'on lui envoie des petites boules, il reçoit ça, il joue avec ça. Ouais, le jeu, c'est ça. C'est de constater qu'il y a des réalités externes. Ce qui est premier génétiquement se retrouve au terme premier dans l'ordre, vous voyez, philosophique, le fait de découvrir l'existence de Dieu. Je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu à partir des idées. Et c'est pour ça que, je dirais, quelqu'un qui accepte que l'intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à Dieu, ne peut pas mettre les idéologies comme philosophie. Parce que fatalement, il s'arrête aux idées. Les idées, c'est l'intentionnalité. Dieu n'est pas dans l'intentionnalité. C'est le gros problème. Est-ce que l'intentionnalité pour rejoindre le réel, c'est bien ça, c'est le problème de Descartes, c'est le problème de tous les philosophes qui mettent en premier lieu le point de vue de l'intentionnalité. Alors, ils essaieront. Alors que ce problème-là n'existe pas en philosophie réaliste. Il n'existe pas parce qu'on a de la santé. Vous voyez ? Il y a des problèmes qui n'existent pas quand on a de la santé, il y a des problèmes qui surgissent quand on est malade. C'est très vrai, c'est quand malade, l'intelligence, ça je veux dire. C'est-à-dire qu'au fond, on est replié sur l'intentionnalité. Et on considère que ce repliement sur l'intentionnalité, c'est la première des choses. Non, ce n'est pas la première des choses. Avant l'intentionnalité, il y a eu le jugement d'existence. Il y a eu ce fait que l'intelligence était liée aux sensations. Donc, vous voyez, voilà la chose. Alors, je dirais, vous voyez, point de départ, si je veux considérer la différence entre une philosophie réaliste et les idéologies, d'abord, le point de départ, jugement d'existence. Et à ce point de vue-là, Descartes a très très bien saisi. Et il est génial quand Descartes dit textuellement, Aristote dit que le toi-ti est premier, que le ti-esti est second,
Moi, je fais l'inverse. Je fais du second le premier. Et quand Descartes fait ça, il fait une inversion et il commente toute l'idéologie. Enfin, c'est beau d'avoir dit ça, hein. Même si c'est faux. Quand même génial de l'avoir dit. Descartes le dit. Donc, puisque Descartes le dit, si Descartes ne le disait pas, je pourrais dire, ben, Descartes le dit, du fait même que le Descartes dit que le qui est premier et que le qui est second, Descartes montre immédiatement que l'idéologie doit régner. Et on doit, à partir du Christi, rejoindre le Totti. C'est intéressant de savoir que Descartes l'a dit, vous voyez, Occam ne l'a pas dit. C'est là où Descartes est plus lucide qu'Occam. Parce que Occam est théologien. Alors, les théologiens n'ont pas toujours la lucidité qu'il faut, n'est-ce pas ? Tandis que Descartes, étant philosophe, a une lucidité plus grande, n'est-ce pas ? Il a une lucidité plus grande, et c'est pour ça qu'il peut dire, à la différence d'Aristote, je mets le tiesti avant le tauti. Bon, ça c'est le point de départ, c'est net. Hein, et historiquement c'est prouvé, hein, il suffit de constamment regarder l'histoire. Hein, historiquement c'est prouvé, il suffit de comprendre cela. Deuxièmement, le terme. C'est intéressant, le terme. Oui, le terme. La philosophie réaliste aboutit à poser l'existence d'un être premier. Que les philosophies appellent, que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc le philosophe pose la nécessité d'un être premier, acte pur, que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est très important de comprendre cela. Le mot Dieu n'est pas philosophique, premièrement. Le philosophe tradition religieuse. Il peut le faire. C'est le privilège du philosophe. Il peut très bien faire ça. Mais lui, il parle de l'être premier, de l'être nécessaire, de l'acte pur, le terme. Donc ça, c'est le terme d'une philosophie qui commence par le tauti. Le tauti aboutit à poser l'essai premier. L'acte pur, l'essai premier. Tandis qu'une philosophie qui commence par l'idéologie, qui commence par les idées, donc le tiesti, c'est une philosophie qui ne pourra jamais aboutir à l'existence de Dieu. Elle s'enferme dans l'intentionnalité. Alors, si ce philosophe est chrétien à la manière de Descartes, il ferait une pirouette pour prouver l'existence de Dieu. Il fera le saut de Kierkegaard. Il dira, oui, Dieu existe, c'est bien évident. Je n'atteins pas par mon intelligence, j'atteins par mon cœur. J'atteins par ma volonté. C'est ce que fera Descartes. J'atteins par la volonté. C'est la volonté qui l'atteint. Donc c'est l'amour. Vous voyez ? Alors je récupère, moi, la voie d'intériorité. Et par la voie d'intériorité, je dis oui. En réalité, à ce moment-là, c'est du fidéisme. C'est le fidéisme de l'amour. Troisième différence. La structure, dans le jugement d'existence, j'aboutis à poser l'ousia comme principe. Dans la philosophie de l'idéologie, j'aboutis à montrer le primat de la relation. Alors, la relation n'est pas archée, elle est structure. C'est ça qui est curieux. Je crois qu'on pourrait dire ça. Vous avez donc trois points sur lesquels vous avez une différence. Ça, c'est la critique que je fais là. C'est pas de la métaphysique, c'est de la critique. Trois points par lesquels vous pouvez distinguer la philosophie réaliste des idéologies. Trois points qui sont nets, jugement des champs. Le point de départ, le point d'arrivée, le terme, et la structure. C'est toujours bien de regarder les trois comme ça, vous savez. La première gare, hein. Fribourg, Berne, hein. Alors Flammat, c'est Lugia. Première gare, hein. c'est important. Alors la première gare, premièrement on s'arrête. La structure première, c'est la relation. Ça c'est ce qu'il y a d'ultime. Oui. Bon, je n'insiste pas plus.
voyez, alors quand on met que l'idée d'infini en est une, c'est très vrai, mais c'est moins la structure, vous voyez. C'est plus après. J'aimerais mieux prendre ces trois aspects comme distinction. Ce qui est un au niveau de l'être est souvent deux au niveau du dire. Oui. Le cas de la substance en est un exemple. Plus qu'un exemple. Quand je saisis la substance, je saisis un principe. Je saisis donc quelque chose d'indivisible. C'est pas un exemple. Ça me donne vraiment la réalité. Or, quand j'essaie de l'exprimer dans mon dire, c'est toujours la même chose. Le jugement d'existence est simple dans son affirmation. Et il est double dans le dire. Tous les jugements sont doubles. Et les jugements saisissent quelque chose de simple. Mais là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas ramener le to noein au to legein. Pour ceux qui s'intéressent, hein. Le to legein, le dire, est toujours complexe. Et le to noein peut connaître quelque chose d'absolument indivisible. Quelle est la cause la plus radicale de ce fait ? Pourquoi, de fait, il y a dualité dans le dire et on s'est dit quelque chose de simple du côté de l'intelligence. Pourquoi y a-t-il cette dualité? C'est intéressant pour toute la question de la philosophie analytique. La philosophie analytique demeure au niveau du langage. C'est pour ça que la philosophie analytique reste toujours dans la diade. Elle reste dans la diade. Elle n'arrive pas à dépasser la diade. Alors, pourquoi l'intelligence, elle, peut atteindre ce qui l'être? Parce que l'intelligence, comme telle, elle est faite pour atteindre ce qui est. Et l'être est premier un. Donc c'est la notion d'être qui explique ça. Tandis qu'au contraire, le dire est lié à ma manière de penser. Or, ma manière de penser implique l'abstraction. Si ma manière de penser implique l'abstraction, je ne peux jamais rejoindre le réel sans la dualité. Je crois que c'est ça la différence. Mon langage reflète la structure de mes formes intentionnelles. Le langage reflète la structure de ma pensée. Mais je suis capable de dépasser la structure de ma pensée pour atteindre le réel. Autrement dit, si vous voulez, on pourrait dire ici ou pas, ce qui est tout ce qui est, n'importe qui, ce qui est premier comparativement au dire. Le dire est second. Il est second par nature. Ma parole n'est jamais première. Je sais très bien ce qu'on dira pour un juge. Au commencement était la parole. Vous voyez donc que la parole est première. Au commencement était la parole. Donc la parole est avant ce qui est. C'est extraordinaire ça. On sert bien d'écriture à ce moment-là. Au commencement était la parole, et donc la parole est première, elle enveloppe ce qui est. Ceci est vrai du dire divin. Le dire divin est premier par rapport à la créature. Le dire divin est premier par rapport à la créature. Ça, c'est vrai. Mais le dire divin est-il Dieu ? C'est toute la question. Est-ce que la Torah est Dieu ? Ou est-ce que la parole divine, que nous voyons dans l'Écriture, le Dieu divin, est-il déjà quelque chose qui provient de Dieu ? Le dire divin est Dieu dans le Logos premier. Dans le Logos premier, qui n'est pas toutes les paroles qui nous sont dites. Alors, le Logos premier est Dieu, et il est antérieur au dire du Créateur, puisque le Logos premier source de tout le dire du Créateur. Le dire du Créateur, vous voyez, le dire du Créateur n'est pas Dieu, puisque Dieu ne crée pas nécessairement. Il crée librement. Donc toute parole divine reflète un acte libre. S'il reflète un acte libre, il n'est pas premier. Il y a avant Dieu, en lui-même. Et l'acte libre provient de Dieu. L'acte créateur est Dieu en Dieu, mais quand il regarde les faits, il n'est plus Dieu. La parole divine, elle exprime l'acte créateur de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand je dis ça, est-ce que c'est Dieu? Non. Ça exprime l'acte créateur de Dieu pour moi. Mais ce n'est pas Dieu. Donc, avant la parole divine, il y a Dieu qui est source de tout être. C'est en ce sens-là que la parole divine, au sens absolu, vous voyez, quand vous prenez la parole divine, vous ne pouvez pas dire que la parole divine est la mesure de ce qui est. Il faut bien comprendre. Ça peut être équivoque. C'est la parole divine, ce n'est pas ma parole. Alors la laïcisation de la parole divine, elle conduit à une espèce de philosophie analytique. Ça serait intéressant à faire. La philosophie analytique est une dernière laïcisation de la parole divine. La philosophie analytique provient de ce fait du système de parole divine, qui mesure ce qui est, d'une certaine manière. Mais la parole divine elle-même provient de Dieu, et en tant qu'elle provient de Dieu, elle a cette efficacité qui regarde l'être. Vous voyez comment c'est complexe, hein, ça. Mais c'est très important de le voir. C'est très important de voir le mystère de la parole de Dieu. Et le mystère de la parole de Dieu, je le reçois dans la foi. C'est pas une chose philosophique. Alors, le mystère de la parole de Dieu, en tant qu'une parole divine, mesure la créature, c'est sûr. Je suis mesuré, je suis porté par le Logos divin. Mais quand je dis le Logos divin, attention, c'est Dieu lui-même, créateur, qui me porte. C'est l'acte libre du créateur. Cet acte libre du créateur est exprimé par la parole divine. C'est sûr, la parole divine exprime cet acte créateur de Dieu. Et cet acte créateur de Dieu porte la créature. La créature est portée par la parole de Dieu et non pas par le langage humain. Bon, je m'arrête là, hein, et puis nous continuons, parce que ça nous a fait trop loin. Mais c'est important d'y réfléchir, parce qu'au fond, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Nous vivons ce phénomène, je crois, très particulier de la confusion de la parole de Dieu, des attributs de la parole de Dieu avec le propre parole humaine. Il y a une confusion, c'est ça que j'appelle la laïcisation de la parole divine. Vous voyez, c'est un dernier aspect qui est important à comprendre si on veut saisir ce que c'est que la philosophie analytique. Ça, je suis persuadé que la philosophie analytique ne peut naître qu'avec un fond chrétien. Dernier petit enfant des théologiens. C'est pour ça que les théologiens nous caressent avec tant d'amour. Parce que c'est le dernier petit-fils des théologiens. Alors, c'est évident. Et l'arrière-petit-fils, on est, il est plus beau que tous les autres, il est merveilleux. Et alors, c'est pour ça qu'on l'aime avec tant d'amour. Bon, alors, je continue de regarder le point de vue de la relation. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la relation? Je me pose la question. Je vois que la relation, pour moi, est vécue en premier lieu dans le domaine de l'amour d'amitié. Deuxièmement, je constate que l'amour d'amitié prend des formes très diverses. C'est toujours la relation. Comment expliquer cette diversité? Je vois que cette diversité s'explique par les diverses mises en commun. Autre est l'amitié du voyage, autre est l'amitié de toute une vie, autre est l'amitié d'intellectuel. Nous pouvons être amis, nous, parce que nous sommes des métaphysiciens, alors nous pouvons être amis, nous comprenons si on ne la comprenait pas, on ne serait pas amis. Donc l'amitié des métaphysiciens, l'amitié des théologiens, et ainsi de suite. L'amitié des peintres, l'amitié, quand c'est une véritable amitié, vous savez quoi, c'est une rivalité terrible, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui montre très bien que la mise en commun peut susciter une amitié, comme elle peut très bien faire l'inverse. Parce que c'est la jalousie de la haine par rapport à la haine, c'est la jalousie du psychanalyste par rapport au psychanalyste, et ainsi de suite. Alors on voit très bien que les mises en commun ne sont pas nécessairement des relations d'amitié. C'est pas parce que je fais le même métier que quelqu'un d'autre que nécessairement nous serons des amis. Nous serons peut-être des rivaux. Et la mise en commun. Alors, il faut, quand j'essaie de comprendre ce que c'est, j'essaie d'analyser ce que c'est que la relation, je vois que toute relation implique deux termes. C'est pas étonnant, puisque c'est le prince. Le vers. Vers, quelqu'un. Vers, un autre terme. Donc, il y aura nécessairement deux. La relation implique la dyade. Vous voyez, c'est intéressant aussi. Là. La relation implique la dyade. La relation n'est jamais une. Peut pas. Elle n'atteint pas l'indivisibilité, la relation. Elle implique donc les deux termes. Ces deux termes impliquent un fondement. Et ce fondement s'enracine dans un sujet existant. Vous voyez que la relation est quelque chose de tellement débile au point de vue de l'être. J'analyse la relation, je ne peux pas dire simplement substance et qualité, substance et quantité, en considérant que la qualité et la quantité inhèrent directement à la substance, je suis obligé de mettre un intermédiaire, un métaxu, un intermédiaire, le fondement. Toute relation implique un intermédiaire. Et c'est cet intermédiaire qui joue un rôle très important puisqu'il diversifie les diverses relations. Et cet intermédiaire, où il existe, où il n'existe pas, le non-existe, le non-être. Ah, c'est ça qui est très intéressant à voir, c'est que si ce fondement existe, je suis en présence d'une relation réelle. Si ce fondement n'est pas existant ou n'existe que dans ma pensée, il existe uniquement dans mon intelligence. C'est mon intelligence qui fait cette relation. Je suis en face d'une relation qui n'est pas réelle. Et alors, je découvre là quelque chose de très important, c'est que la relation, elle est ou réelle ou de raison. C'est saint Thomas le premier qui a fait cette distinction. Et je crois qu'elle est valable. Pas parce qu'elle est de saint Thomas, mais parce que je crois qu'elle est valable. Et que c'est une chose très intéressante à voir. C'est que la relation, à l'intérieur même de ce qu'est la relation va se diviser en relation réelle et relation de raison. Vous ne pouvez pas dire ça pour la substance. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a la substance réelle et la substance de raison. Ça n'existe pas la substance de raison. C'est contraire à la substance d'être une substance de raison. Pourquoi ? Parce que la substance est principe d'être. Si elle est principe d'être, elle ne peut pas être ce qu'elle est, uniquement du côté de la raison. Tandis que la relation n'est pas principe d'être, elle est un pur âme. Alors elle peut se fonder dans la réalité ou elle peut se fonder dans une opération intellectuelle. Et si elle se fonde dans une opération intellectuelle, je serai en face d'une relation de raison. Vous savez que la relation de raison la plus typique, hein, tout le monde sait ça, ça fait partie de l'enseignement de saint Thomas et quelque chose de très intéressant, la relation de raison la plus typique, c'est l'universel. L'universel est un être de raison. Et c'est une relation de raison. Alors, quand on dit être des raisons et relation de raison, ça veut dire que l'universel ne peut apparaître qu'à partir d'un acte de l'intelligence. Et d'une intelligence, d'une opération intellectuelle. Et d'une opération intellectuelle qui implique l'abstraction. Il n'y a pas d'universel sans abstraction. Donc l'universel n'existe pas dans la réalité. Vous n'avez jamais vu l'universel. Si vous le voyez, faites attention. C'est terrible l'universel. L'universel n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans l'intelligence humaine. Vous n'avez jamais rencontré l'universel. C'est un spectre dangereux. C'est mon intelligence qui le fait. Ça n'existe pas dans la réalité. Et pourtant, l'universel, il n'allait pas dire que c'est rien. C'est pas rien, l'universel. C'est pas le néant, l'universel. C'est un être d'horizon. Vous voyez, alors entre être réel et néant, il y a les êtres d'horizon. Ah, ça devient très intéressant, ça. Entre être réel et être d'horizon, je suis bien obligé de le constater. Le mot être de raison, je crois, est propre à saint Thomas. Albert le Grand ne disait que des intentions de raison. Et c'est saint Thomas qui a dit être de raison. C'est quelque chose d'assez audacieux d'avoir dit être de raison. Alors il faut le reconnaître, il faut essayer de le comprendre et de reconnaître qu'il y a là quelque chose qui est assez intéressant d'avoir dit ens ratio. Et vous pouvez remarquer que Saint-Thomas n'a jamais dit « esse rationis ». Pour ceux qui s'intéressent au langage de Saint-Thomas. Saint-Thomas a dit « esse rationis » et n'a jamais dit « esse rationis ». Pourquoi ? Parce que l'esse, c'est l'acte d'être. Et donc, il ne peut pas être un être de raison. Tandis « esse », ah oui, ça peut être un être de raison. Très curieux, c'est très intéressant de le savoir. Alors, comprenez bien qu'il y a ce qui est, ens, le non-ens, le non-être. Le non-être qui est le rien, alors, rien c'est le non-être. Normalement, le rien c'est le non-être. Et entre deux, ens rationis. Alors, vous voyez comment l'ens rationis pourra s'identifier au rien. Et comment aussi l'ens pourra en venir un métaxus, un intermédiaire. Un intermédiaire entre deux aspects qui sont quand même, on dirait, mais entre l'être et le non-être, il n'y a rien. C'est ce qu'on dit à propos du principe de l'ombre malédiction. On dit qu'entre l'être et le non-être, il n'y a rien. Et comment se fait-il alors qu'il y a l'être de raison? Eh bien, l'être et raison n'est pas un métaxus entre l'être et le non-être. L'être de raison, c'est tout simplement sur l'exemple de l'être que je fabrique l'être de raison. Ad instar, ens ratio reus. C'est ad instar. C'est sur l'exemple de l'être réel que mon intelligence fabrique l'être de raison. L'être de raison, c'est le fruit de mon intelligence. L'être de raison est donc... Alors, vous voyez, l'être de raison, ce n'est pas l'intentionnalité. Encore. Vous voyez, comme ça nous conduit loin quand on regarde la relation. C'est la relation qui me conduit à ça. Je suis obligé de regarder ça si je veux comprendre la relation. Comment je peux pas? Je m'arrête avant. Je suis obligé d'arriver à distinguer être, non-être, être de raison et intentionnalité. L'intentionnalité est un être réel. Ce n'est pas un être de raison. L'intentionnalité, c'est le concept. Le concept. Le verbe mental, comme on dira. Hein. Le concept, c'est une forme intentionnelle. L'être de raison n'est pas le concept, n'est pas l'intentionnalité. L'être de raison, c'est une manière particulière dont le concept va pouvoir se réaliser. Il va se réaliser sous un mode universel à cause de l'abstraction. C'est l'abstraction qui est source de cette intentionnalité, qui est source de cet être de raison. Mais l'abstraction n'est pas source de l'intentionnalité. L'abstraction, c'est une manière particulière de connaître. Tandis que la connaissance est source, la connaissance intellectuelle, est source de l'intentionnalité. Donc la source de l'être de raison et la source de l'intentionnalité ne sont pas les mêmes. C'est deux choses différentes. Alors il faut arriver à distinguer, l'universel, l'intentionnalité, l'être réel et le non-être. Ceci pour que nous comprenions comment, quand il s'agit de la relation, on peut parler de relation réelle et de relation de raison. L'universel a comme fondement l'opération intellectuelle. Et le fondement de l'universel, c'est donc l'opération intellectuelle, c'est pour ça que l'universel n'existe que dans mon intelligence. L'universel ne se promène pas tout seul. Impossible. Je peux l'imaginer. film de cinéma d'imaginer l'universel. Je peux l'imaginer, mais en réalité, je ne peux pas. Il n'existe pas, il n'existe que dans mon intelligence. Je ne peux pas le représenter. Je ne pouvais pas représenter l'universel. Cherchez à vous représenter l'universel. Je ne pouvais pas vous le représenter. L'universel est saisi uniquement par l'intelligence. Pas saisi par l'imagination. Ce n'est pas un être imaginatif. C'est un être de raison. C'est un être qui vient de l'intelligence et que l'intelligence humaine seule peut saisir. C'est un même très spécial. C'est pour ça que ça m'a dit Elstratianis. Pour qu'on comprenne bien que c'est l'intelligence seule qui saisit cela. Donc, je reviens à la relation maintenant. Je mets ça entre parenthèses pour que vous compreniez qu'il existe des êtres de raison. Oui.
Le fondement de l'amitié.
Ah, le fondement de l'amitié. C'est raison de revenir sur la relation réelle. La relation la plus réelle que je veux, c'est le point de vue. Non. Alors, le fondement de l'amitié est très divers. Hein. Vous voyagez avec quelqu'un. Quel est le fondement de votre amitié? C'est le voyage que vous avez fait ensemble. Vous avez été dans une position périlleuse ensemble. Vous avez vu un être de raison apparaître, n'est-ce pas, une soucoupe volante. Vous avez été en même temps avoir cette soucoupe volante. Et vous avez été terrorisé en voyant cette soucoupe volante. Il y a eu un petit fondement commun à ce moment-là. Vous avez eu le même tremendum. Hein, tout ensemble. Eh bien, ça s'allie. C'est les vieux soldats qui ont été sur pendant des situations pénibles ensemble, et quand ils se retrouvent au point du feu, ils rappellent que de fait, ils ont connu cette situation critique. Vous voyez, le fondement d'une amitié, le fondement d'une relation qui s'est créée à ce moment-là. On a vécu ensemble quelque chose de profond qui nous a secoués. Oui. Alors, il y a un fondement. Alors, c'est que le fondement de l'amitié, c'est la koinonia, ce qu'on appellera la koinonia. C'est le fondement de l'amitié. Alors, ce fondement de l'amitié est divers. C'est en ce sens-là que vous distinguerez des amitiés de jouissance, des amitiés parfaites, personnelles, des amitiés utilitaires. Vous distinguez par le fondement. Les amitiés utilitaires, c'est quoi? Donnant, donnant. Je suis fort en thème, tu es fort en version. On sera toujours l'un à côté de l'autre pour la version et pour le thème. Hein? C'est bien entendu. Je te communique tout ce que je sais du côté du thème. Toi, tu me communiques tout ce que tu sais du côté C'est comme ça les amitiés de voleurs. Hein? Les amitiés de tricheurs, ça revient au même. Non? Alors, la communication, on voit très très bien la communication. Donnant, donnant. Vous voyez, dans l'amitié proprement dite, c'est pas cela. C'est cette confiance qu'on fait l'un à l'autre, et c'est cet amour mutuel. Ce don mutuel de l'un à l'autre. Et dans l'amitié de jouissance, c'est que de fait, on sait que je suis source de jouissance pour l'autre, donc qui a qu'à part, et l'autre sera source de jouissance pour moi. Oui. Alors il y aura une mise en commun. La mise en commun, c'est toujours le fondement de l'amour d'amitié, la koinonia, la mise en commun. Oui.
Le don de soi, c'est déjà une relation.
Le don de soi, non, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est une opération volontaire par laquelle je tends vers quelqu'un. Oui, mais c'est une qualité, l'amour. L'opération immanente, vitale, c'est pas une relation. Les scolastiques, ça implique une relation transcendantale. Et c'est là où Krempel fait sentir l'artillerie. Il n'aime pas ça. Vous voyez ? Il n'aime pas ça. Parce qu'au fond, l'amour et l'amitié est en premier lieu, l'amour est en premier lieu une opération vitale. Je suis tendu vers l'autre. Je me donne à l'autre. L'amour est premièrement qualité. Il n'est pas premièrement relation. Mais il sera fondement d'une relation. Vous voyez ? Et ça c'est vrai, il est fondement d'une relation. Fondement de cette relation présente. Et donc il faut distinguer dans l'amour d'amitié ce qui va relier les deux amis et ce qui va être le fondement de cet amour d'amitié. Oui. C'est pas toujours commode de bien discerner les deux. Hein, parce que c'est une analyse, c'est le fruit d'une analyse. Pour essayer de comprendre ce qui va déterminer l'exercice de ces deux termes. Qu'est-ce qui détermine? Qu'est-ce qui spécifie nos relations? Alors ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui spécifie une relation? C'est son fondement, c'est vrai, c'est son fondement. Ça spécifie une relation. Oui, une relation de similitude est spécifiée par son fondement. Nous sommes semblables quant à notre intelligence. Nous sommes semblables quant à la couleur de nos yeux. Nous sommes semblables quant à, je ne sais pas quoi, à notre goût esthétique. Nous avons le même goût. Toujours nous tombons d'accord sur les mêmes choses. Donc il y a une similitude là. Alors qu'avec d'autres, c'est juste l'inverse. Parce qu'ils aiment telle chose et moi j'aime telle autre chose. On ne sait pas avant que c'est comme ça. Alors, il y a une similitude ou une dissimilitude. Oui, une relation de similitude qui est fondée sur ce fait qu'on a le même goût. Alors ça, c'est une opération, ce fondement. Ça peut être une opération vitale qui est dans nous-mêmes, qui qualifie le sujet. Cette opération vitale qualifie le fondement, qualifie. Ordinairement, le fondement est d'ordre qualitatif, le fondement est d'ordre de l'opération, ou le fondement est d'ordre de la quantité. Ce sont les trois fondements possibles. Le fondement est ou la qualité, ou la quantité, ou l'opération. Un professeur qui enseigne, et les étudiants qui écoutent, il se fait au bout d'un certain temps une relation entre le professeur et les étudiants. Si le professeur enseigne, et si les étudiants écoutent. Si le professeur n'enseigne pas, vous voyez ce que veut dire, il n'enseigne pas. Parce qu'il lit son cours. Quelqu'un qui lit son cours, un magnétophone pourrait faire la chose. Hein. Alors, ce n'est plus une relation d'acte et de puissance. Ça qui est très curieux. Et donc, il n'y a pas de relation qui se fait entre le professeur et l'étudiant. Il y a un vide. C'est très curieux. Il n'y a pas de présence. Le professeur qui enseigne, il agit sur celui qui écoute. Alors il agit, celui qui écoute est ou d'accord ou en opposition. Et plus il agit, plus les oppositions sont violentes et plus les similitudes sont fortes. C'est bien évident. L'idéal, hein, ce n'est pas la neutralité dans l'enseignement. Ah, c'est magnifique ce cours, tout le monde dort. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de chaîne, tout le monde dort. Là, c'est la neutralité la plus absolue. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de relation de maître à disciple. La relation de maître à disciple n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement. Le professeur est là parce qu'il doit être là pour être payé. Un but très noble. N'est-ce pas? C'est ce que les anciens appelaient les sophistes. Les sophistes se faisaient payer. Alors, le professeur est là parce que l'étudiant est là parce que il le faut bien. Il faut que cet ami-là soit signé. Vous croyez qu'il va se réaliser entre les deux une relation de maître et disciple? Non. Il va y avoir uniquement une juxtaposition. Une juxtaposition. Et il ne va pas se former de communauté. C'est la même chose pour les ouvriers et le patron. Il y a une juxtaposition, c'est tout. Les uns sont là, ils sont pointés, il faut être là, il faut être pointé. Alors, aucune coopération. Tant qu'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de fondement. Et donc, il n'y a pas de relation qui existe entre le maître et les disciples, entre celui qui a la responsabilité et les autres. Il faut une relation. Toute communauté est un tissu de relations. Toute communauté est un tissu de relations. Et de relations personnelles quand il s'agit de la famille, de relations personnelles quand il s'agit du travail en commun. Comment se fait-il qu'il y a des cours où il y a une relation qui se fait, il y a une communion qui se fait, et d'autres cours, il ne se fait pas? C'est la question du fondement. Vous n'avez qu'à réfléchir là-dessus, parce que c'est très important la relation, ça joue un rôle extraordinairement important. Mais au plan politique, donc au point de vue de la philosophie de la communauté, au point de vue de la philosophie de la communauté, une philosophie communautaire s'enracine dans un jeu de relations. Dans un tissu de relations. De relations de complémentarité ou de relations d'hostilité. Et alors on doit être sensible à cela pour essayer de comprendre qu'est-ce qui... fond ces relations et qu'est-ce qui les supprime. Donc vous voyez, ça c'est tout le problème de la relation. Je n'en dis pas plus, hein. S'il y a d'autres questions, vous me le direz, mais je n'en dis pas plus, c'est énorme la relation, c'est très très important. Alors ici il s'agit de comprendre, vous voyez, l'être le plus débile, parce que justement, il peut être spécifié que grâce à son fondement. Et le fondement n'est pas le terme. Alors on comprend très bien comment on a parlé de relations transcendantales. On a bloqué le fondement et le terme. Alors on dira relations transcendantales. On devrait dire, je crois, un ordre transcendantal. Parce que j'ai étudié très fort la thèse de Krempel, et au fond, au terme, je reconnais qu'il y a quelque chose de juste. La relation transcendantale vient bien de Don Scott, mais ça n'a pas d'importance. Si c'est quelque chose de juste, c'est très bien. Il faut la reconnaître, la relation transcendantale. C'est vrai, elle vient de Don Scott. Ça, je crois. Elle n'est pas de Saint Thomas. Je dirais, dans un langage théologiste, c'est un ordre transcendantal. Transcendantal dans le sens de Saint Thomas, c'est-à-dire ce qui dépasse les catégories. Ce qui est commun aux catégories, c'est ça le transcendantal. Ce qui est au-delà des catégories. Tout ce qui est au-delà des catégories est transcendantal. Ça dépasse. Alors je crois qu'on peut dire un ordre transcendantal. Pas relation transcendantale au sens absolu. Mais il ne faut pas se disputer pour les mots. Il faut comprendre tout simplement que quand on dit relation transcendantale, on veut dire par exemple qu'il y a un ordre transcendantal et c'est tout. C'est cette qualité particulière qui est capable de dépasser les catégories. Et alors elle fonde une relation prédicamentale. Et c'est pour ça qu'on aura distingué en scolastique la relation transcendantale de la relation prédicamentale. La relation transcendantale implique toujours le fondement des termes. La relation prédicamentale distingue. Alors ce soir, nous allons faire donc le cours à 14h15 pour ceux qui peuvent être là, et puis on fera le second cours à la suite.